deuxième année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala et le gala de la disque les 26 et 29 octobre prochains, en collaboration avec Télé-Québec et Ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par
CKRL.
Ce soir, à l'aérospatiale, une rencontre avec l'artiste Geneviève Chartrand, la machine paysage d'Andréanne Dupuis-Bourret à Engram, une lecture de Fanny Ménard et la revue de presse en arts visuels. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro en votre compagnie pour cette édition du 26 septembre. Et c'est une semaine bien occupée qui a commencé dès hier. J'ai assisté à une très intéressante conférence de l'artiste français Jean-Pierre Reynaud hier, et j'ai vraiment très, très hâte de discuter de cette conférence, mais aussi du projet qui va émerger suite à tout ça avec le collectionneur Marc Bellemare, hein, qu'on connaît comme homme public, bien sûr, et ex-politicien, donc que je recevrai la semaine prochaine, et j'ai bien hâte de parler de tout ce projet, il faut le dire, hein, bien sûr, assez important qu'on va développer avec lui la semaine prochaine. Mais pour ce soir, on a une émission vraiment très intéressante qui nous attend. On a un bel entretien en première partie d'émission avec l'artiste Geneviève Chartrand qui viendra nous parler de sa première exposition individuelle intitulée Chute, que l'on peut voir actuellement à la Galerie des arts visuels. Une artiste dont la pratique oscille à la fois entre les arts visuels et le cinéma. Donc, on va discuter de tout ça avec elle dans quelques minutes. Et avant la pause publicitaire, je vais vous partager quelques nouvelles qui ont retenu mon attention cette semaine dans le milieu des arts visuels. Et par la suite, en deuxième moitié d'émission, on va présenter quelque chose de nouveau, une toute nouveauté ici. Je vais recevoir deux nouvelles collaboratrices qui avaient envie de nous parler de cette exposition, La machine paysage d'Andréanne Dupuis-Bourret chez Engram. Et chacune avait envie de le faire à sa façon. Il y a Héloïse Dupuis, pas Dupuis, mais Héloïse Plamondon, Pagé, pardon, qui va venir nous faire une chronique, un survol du travail qui est présenté là-bas, mais Fanny Ménard va nous faire une lecture, même va nous lire deux extraits de textes que lui ont inspiré cette exposition-là, et on entendra même une sélection musicale choisie par cet artiste, bien sûr. Et bien, à la fin, certainement, on va faire aussi le tour des événements en art visuel qui ne sont à ne pas manquer cette semaine. On va débuter avec une pause audio. Cette semaine, la sélection musicale de Simon Roy. Il nous propose une compilation de l'étiquette web Breathe Compilations. Et c'est une étiquette qui est située au Mexique. Le titre de l'album est Oir Cosas Nunca Fistas. Et le premier extrait qu'on s'en va écouter est Didio Anytime. Thank you. On commence cette émission en compagnie de Geneviève Chartrand. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir Audrey.
Alors, c'est vraiment une belle occasion qui t'est présentée cette année d'ouvrir la programmation de la Galerie des arts visuels parce qu'il faut le souligner, la Galerie ouvre depuis de nombreuses années sa programmation avec des étudiants à la maîtrise. Donc, pour présenter leur travail et c'est sélectionné par un jury, bien, tout d'abord, félicitations. Hein? Ça doit être toute une expérience aussi, j'imagine, comme première.
Oui, je suis très contente.
D'être dans ce lieu-là aussi, également.
Vraiment. Ça doit être super, super beau lieu.
Oui.
Vraiment.
Surtout avec ces grosses colonnes au centre. Et puis, oui. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, dire que quand on arrive à la Galerie des arts visuels, les habitués peuvent être un petit peu déstabilisés ou surpris parce que tu leur bloques l'entrée. Dès notre arrivée, là, on n'a pas accès à la galerie directement. Il y a une structure en bois que tu as construite comme ça qui dévie notre parcours, si
voilà.
On peut dire.
C'était bien important pour moi, oui. de pas tout de suite avoir accès à ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais vraiment envie que les gens puissent profiter d'un petit détour pour pouvoir ensuite entrer dans l'espace puis pouvoir avoir cette relation-là plus intime avec ce qui était proposé comme image.
Mm-hmm. Puis j'imagine aussi, il doit avoir une façon de pas... parce que quand même, ce qui est présenté à l'intérieur, beaucoup de... trois belles vidéos qui sont projetées au mur. Donc, j'imagine aussi une manière de garder l'attention du spectateur, de créer comme un cocon, si on peut dire.
Oui, tout à fait.
Oui. Et puis, ce qui a vraiment attiré mon regard quand on entre dans la galerie, il y a justement ces fameuses projections-là que tu as disposées. Par rapport aux colonnes, hein, parce que je le soulignais, ces grosses colonnes blanches sont là, elles se trouvent vraiment autour, là, deux de chaque côté, puis une au centre, comme ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui attire avant tout notre attention, ces projections vidéo-là. Et il y a quelque chose de très contemplatif, je pense, dans ta proposition, notamment avec ces vidéos-là, mais aussi les petits éléments aussi qui se rajoutent par la suite, cet esprit de contemplation-là. Est-ce que c'est bien ce que tu avais souhaité?
Oui, effectivement, c'est ça que je souhaitais, le proposer aux gens, une espèce d'espace où est-ce qu'ils pouvaient être idéalement seuls dans un espace où ils étaient livrés à... une proposition d'images qui, après ma mort, ont été captées par moi dans ce même état d'esprit-là qui est la contemplation. Donc, ce que je souhaitais faire, c'est permettre un peu aux visiteurs, en fait, d'avoir ce même regard-là sur les choses, mm-hmm. L'état des choses simples, l'état des choses brutes, les choses qui existent, les choses qui sont là avant qu'on passe dans la rue ou ailleurs, oui. Puis les choses qui restent un coup qu'on n'est plus là, finalement.
Oui, parce qu'il faut le dire, parce que ces trois vidéos-là, c'est un montage de courts extraits vidéo où tu as capté des petits instants de quotidien, de banalité. Il y a quelque chose, je trouvais, du flâneur dans cette opération-là, de rencontres fortuites, si je peux dire. Et j'ai trouvé ça très, très poétique. Il y a une poésie qui émane malgré la disparité au premier regard de ces extraits-là. Parce que, est-ce que tu peux nous dire un peu justement les éléments qu'on retrouve hein, pour nos auditeurs, les éléments qu'on retrouve dans ces vidéos-là?
Oui, ben c'est ça. Tu parlais là, de la dimension poétique qui ressort de ces images-là. Je me souviens pas le mot que tu as emprunté. L'errance, tu sais, que tu as dit?
Oui, le flâneur.
Ouais, oui, c'est ça. Mmh. Ben, en fait, c'est des images, en fait, que j'ai prises dans des moments comme ça où est-ce que ça l'arrivait par hasard. C'était des rencontres fortuites, comme tu dis. Il y a une grande part de comment on dit ça?
De spontanéité.
Je ne suis pas partie à la recherche d'images.
Okay.
À chaque fois que j'ai... C'est des images, premièrement, que j'ai prises dans mon cellulaire. Donc, j'avais aucun souci de faire des images de qualité.
Oui.
Donc, cette instantanéité-là, on la voit quand on voit les images. C'est des choses vraiment qui, après ma mort, sont sans grande importance, qui sont pas majestueuses, c'est pas mm-hmm. des images bucoliques, c'est pas des images où est-ce qu'on se dit ah waouh, quelle belle photo par exemple, on peut voir un bout de trottoir avec une bouche d'égout, une flaque d'eau, une branche qui traverse un mur ou
oui, la pluie qui tombe aussi sur un plancher de bois, mais c'est comme on dirait, tu as voulu attirer notre attention sur les choses simples de la vie aussi.
Les choses qui se passent, les choses qui sont. les choses qui existent.
Oui. Mm-mm. Puis je trouve que ça fait justement dans cet esprit de contemplation-là, un très grand bien. Ça vient un peu, on dirait, marquer un temps d'arrêt.
Oui, ça
on
fait
regarde,
du bien.
Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais tu sais, on regarde ça, puis on se laisse emporter par le fait que ce sont de courts extraits aussi, puis notre cerveau essaie de faire un lien entre tout ça. Au début, ça nous apparaît un peu désorganisé, mais il y a vraiment quelque chose qui se crée, un lien qui se tisse entre ces bribes d'images que tu as faites.
Ces fragments-là existent. Oui. Comme tu disais tantôt, ils ont une grande part de poésie là-dedans.
Oui.
Puis c'est souvent ce à quoi la poésie nous ramène. Ça nous ramène à un espace qui n'est pas de l'ordre du tout de la consommation ou d'une visée économique ou de productivité. Donc, c'est qu'est-ce qui comme l'amour, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien.
Mm-hmm.
Dans le fond, ça existe là. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement toutes des images belles. Des fois, c'est des images qui ne sont pas nécessairement... qui ne sont pas spécialement esthétiques,
ouais.
Tout ça, mais... Justement, ça marque une pause, ça marque un instant.
Oui, un instant dans cette journée-là, ouais, justement, lorsqu'on va visiter.
Ça existe comme des parenthèses, finalement. C'est comme un petit lieu qui existe entre deux choses.
Mm-hmm. Exact.
Entre un avant et un après.
Oui, j'aime ça, une parenthèse, effectivement, parce que je pense que ça exprime très, très bien cette expérience qu'on vit. Et j'ai constaté aussi que c'est beaucoup des gros plans. Il y a quelques plans un petit peu plus larges, mais on sent quand même le cadrage à ce moment-là. Donc, c'est intéressant aussi, cette espèce, malgré la grandeur aussi de la projection, qui est de la taille du mur, il y a quelque chose de très intime aussi par le fait que ce sont des gros plans, puis aussi par le fait qu'il y a très peu d'humains. C'est beaucoup des choses. Et
exact.
Sinon, les humains qui se trouvent, notamment dans la troisième vidéo,
parties.
C'est ça. Ils sont anonymes, ce sont des mains, des gens vus de dos. Donc, il n'y a pas de personnalisation, volonté de documenter certaines choses. Donc, notre regard vient à être accroché par l'image, justement, et la simplicité, la banalité des choses.
Tu parlais de cadrage. Évidemment que j'ai fait le choix de cadrer d'une certaine manière quand j'ai fait la captation vidéo. Mais ça, encore là, parfois, c'est relié complètement juste à un désir de rendre une espèce d'image... comme des fois, ça peut être le côté affectif qui va me guider dans le choix de prendre cette photo-là ou cette vidéo-là, mais parfois, c'est complètement juste un désir de faire un cadre sur quelque chose qui est pour moi très formel, d'ordre formel, des lignes, des textures, des plans, des couleurs.
Oui. Et puis là, déjà là, j'avais pris une note aussi du fait que l'image aussi est un peu... bouge, aussi. Moi, je pensais à caméra épaule, mais là, tu t'as répondu en disant que c'était des images de cellulaire aussi, mais ça ajoute
ça
aussi
bouge.
Le fait que ça bouge. On sent qu'il y a quelqu'un ici. Oui, exact. Et justement, vis-à-vis ces vidéos-là, il y a un portrait vidéo.
De l'autre côté en face.
Oui, c'est ça, de l'autre côté, tout en face.
Qui
dans
tourne
le fond,
le dos.
Qui tourne le dos, oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant par rapport à la... notamment à la disposition, à la hauteur, le format aussi, avec parce que c'est un portrait vidéo, oui, donc ça bouge, on est comme... ce n'est pas fixe, il se passe de quoi, mais on a vraiment l'impression, moi je trouvais, de se trouver derrière cette femme qui nous fait dos, mais qui regarde, on dirait, vers le lointain, au bord de l'eau, ici. Il y a vraiment quelque chose aussi de la perception de notre présence dans ton exposition par rapport à ce qui est présenté, notamment cette œuvre-là.
Oui, c'est ça. On se trouve à être vraiment à être derrière cette personne-là. On se demande ce qui est derrière nous à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qu'elle voit? Est-ce que ça se trouve derrière elle aussi? Donc, ça nous met dans une position un peu ça nous force à avoir conscience de notre présence dans cet espace-là, mais en même temps, on peut se trouver anonyme comme on l'est quand on déambule, quand on marche dans la ville ou
Oui. C'est comme si on la surprenait, ou ben pas la surprenait, mais t'sais, dans un instant, elle aussi, de contemplation, comme une mise en abîme, t'sais, en quelque sorte, de nous comme spectateurs dans notre instant de contemplation, mais elle aussi, vis-à-vis ce paysage où elle fixe, on s'imagine, parce qu'elle ne bouge pas, hein, mais elle regarde au lointain aussi. C'est intéressant, je trouve, cette mise en abîme-là, en quelque sorte, qui est là. Et sinon, il y a deux autres éléments qui se trouvent là. Il y a à l'entrée un tout petit monticule de sable qui est placé quand même à une hauteur assez haute. Là, moi, il a fallu que je me monte sur le bout des pieds. J'aimerais que tu nous parles de cet élément-là, parce que ce petit tas de sable est aussi sur un papier également, un flot que j'ai pu lire. Oui. Parle-nous-en un petit peu plus, ça m'intriguait.
Ben, ça, c'est un choix de dernière minute. Tout d'abord, je peux peut-être préciser que quand je suis arrivée dans cette immense galerie-là, j'avais très peur parce que c'est un espace vraiment immense. Puis là, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour habiter cet espace-là? Je suis seule, c'est une exposition solo. Là, je pensais à ce que j'allais pouvoir ajouter, construire des murs, ajouter plein d'objets. Puis finalement, ben la solution, ça a été vraiment d'épurer la salle à son maximum, parce que c'est dans son épuration qu'on trouvait vraiment, que moi j'ai trouvé que l'essence même de mon propos prenait plus vie.
Oui.
Puis le mur, en fait, faut expliquer peut-être, quand on rentre, les murs sont peints en noir. Puis j'avais envie de mettre quelque chose au mur. Je trouvais que cet espace-là, il manquait une présence. Puis j'avais envie de situer... c'est mis vraiment au milieu complètement. Là. C'est comme un trait d'union. La tablette, elle est blanche sur le fond noir. Donc, c'est comme un trait d'union qui
fait le lien avec...
qui fait le lien, oui, c'est ça, avec ce qu'il a vu, avec ce qui a été. Puis le sable, ben, c'est une trace en même temps là, de... tangible, c'est un objet qu'on peut toucher, hein. Il y en a même qui ont joué dans le sable, mais c'est vraiment quelque chose de plus concret, qui est moins de l'ordre, mettons, du rêve, ou comme les images peuvent nous faire penser peut-être à un monde plus onirique, ou à, je sais pas comment expliquer ça, mais de voir quelque chose comme ça qui reste, qu'on peut toucher.
Oui, cette trace.
Ça me plaisait d'ajouter ça.
Oui. Et finalement, il y a cet élément aussi visuel assez présent au fond de la salle, le mot en néon, hein, tchut en néon, qui à la fois est silencieux au plan sonore, mais au plan visuel est très criard. Il y a une contradiction en quelque sorte entre ces éléments-là.
Ben, faut dire que c'est ça, c'est un mot, le mot chute, c'est quand même un mot qui sert à imposer le silence. Quand il est dans le langage parlé. Puis un néon, ben normalement, ben ça indique quelque chose, ça met l'accent sur ce qui est, en fait. Puis le mot chute, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il soit dans l'espace, parce que non pas qu'il se trouve là comme une direction, comme un commandement, comme un ordre pour les gens qui se retrouvent là, mais plus comme une indication à ce silence-là, en fait, qui, moi, m'habite, qui m'a habité pendant ce parcours-là de collecte d'images, d'archivage, de collection d'instants, mais qui fait référence aussi à cet espace-là de solitude que tous et chacun, on trouve quand on est en groupe, quand on est en famille, en amis, on a tout un espèce d'espace de solitude qui, des fois, on a un regard sur ce qui nous entoure, ou on pense à ce qui va pas, ou est-ce qu'il va?
Oui, un petit moment d'égarement plus solitaire à nous.
Oui, individuel. Donc.
Oui.
Exact.
Eh bien, je vais inviter tout le monde à aller voir cette exposition-là, parce que ça vaut vraiment la peine. Et comme on le disait, si vous aviez envie de marquer une parenthèse dans votre journée, faites un arrêt à la Galerie des arts visuels. C'est jusqu'au 22 octobre.
C'est ça,
donc,
ouais.
Il nous reste presque un mois pour aller voir l'exposition. Et ça fait vraiment du bien, je trouve.
Merci, Audrey.
D'arrêter. Merci beaucoup, Geneviève Chartrand.
Merci de m'avoir invité.
Alors, nous, on poursuit. On s'en va écouter un autre extrait de cette compilation. Cette fois-ci, c'est l'artiste Ethereal Music avec Into the Blazing Sun. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 en compagnie d'Audrey Caro pour l'aérospatiale. Et j'avais envie de faire avec vous un petit survol de quelques nouvelles avant la pause publicitaire. Des nouvelles en art visuel, quand même des choses à savoir. Ici, il y a le pavillon Gérard Morissette du Musée national des beaux-arts du Québec. Vous savez, le premier pavillon du musée, donc, ferme ses portes actuellement et même fermé actuellement, donc, aux visiteurs afin de procéder à l'actualisation du bâtiment et à réaliser la troisième et dernière phase de redéploiement des collections du musée. On le sait que dans le nouveau pavillon, la sonde, il y a les collections notamment d'art moderne et d'art contemporain qui s'y trouvent. Donc, on va également les collections d'art inuit, c'est important de le souligner, de design. Mais là, on ferme le pavillon Gérard Morissette et la réouverture est prévue pour 2018 pour souligner le 85e anniversaire du musée et ce sera l'occasion de redécouvrir le pavillon aussi central, également là, l'ancienne entrée du musée, ainsi que le pavillon Charles Baillarger, donc il y a eu une petite cure de jouvence à l'époque. Et c'est quand même 5 salles des collections qui vont être complètement renouvelées de l'art ancien à l'art moderne avant 1960, qui vont poser un regard neuf sur 350 ans de pratique artistique au Québec. Et ce grand renouvellement va comprendre près de 800 œuvres, peinture, sculpture, orfèvrerie, mobilier, art graphique, photographie, et vraiment va nous donner une vision nouvelle sur plusieurs œuvres distinctives, mais aussi méconnues de la collection. Donc, ça sera un beau moment. Alors, ne vous surprenez pas si vous visitez le musée prochainement que ces salles sont fermées, mais on a vraiment très hâte de voir ce que va nous avoir concocté l'équipe du musée pour revoir et revisiter cette exposition, cette collection permanente du musée. Également, on apprenait aussi la semaine dernière que les revenus du concert bénéficient à la mémoire de Leonard Cohen. Vous vous souvenez, ce grand musicien qui est mort le 7 novembre de l'année dernière. Eh bien, un grand concert hommage se prépare et va se tenir au Centre Bell à Montréal le 6 novembre prochain. Et la famille a annoncé que les revenus de ce concert, les bénéfices plutôt même, devrais-je dire ici, seront versés à 3 Conseil des arts, dont l'auteur-compositeur-interprète estimait le rôle fort important. Donc, on parle notamment ici au Québec du Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, l'argent va aller directement, va être injecté pour aider le développement de d'autres talents en soutenant leurs projets artistiques, tout comme M. Cohen en avait bénéficié à l'époque. Donc, c'est vraiment, c'était très important pour lui de redonner à la communauté artistique et de soutenir la mission du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et il avait d'ailleurs fait remis une somme de 30 000 $ par le passé pour le prix de Denise Pelletier en 2012, donc, qui avait servi pour financer la tournée de Vincent Vallière dans les écoles notamment. Mais bref, c'est toute une communauté artistique qui va pouvoir bénéficier de cet argent ici. Il faut rappeler qu'il va y avoir également aussi à compter du 9 novembre prochain à Montréal, au Musée d'art contemporain, une exposition « Une brèche en toute chose », donc qui va traiter justement de Leonard Cohen, donc une grande exposition d'envergure internationale qui va être inspirée de l'univers et des grands thèmes de la vie et de l'œuvre de Leonard Cohen. Donc, ça ne sera certainement à ne pas manquer cet automne, à la fin de l'automne. Et finalement aussi, souligner avis aux artistes et aux organismes artistiques de Québec, le Conseil des arts et des lettres a justement enfin annoncé son programme de financement de l'exploration et du déploiement numérique. Donc, c'est pour aider, on invite les artistes et les organismes à soumettre leurs projets visant au développement d'expertise en matière de recherche, de création, de production et de diffusion, ainsi que de rayonnement de contenu numérique. Ces personnes sont invitées à concevoir des projets qui vont favoriser la découvrabilité des contenus artistiques québécois dans l'univers numérique. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site même du Conseil des arts et des lettres du Québec et vous avez jusqu'au 1er décembre 2017 pour soumettre vos projets. Alors voilà, ça fait le tour de quelques actualités à noter cette semaine. On s'en va en pause publicitaire et on revient par la suite avec Héloïse Plamondon-Pagé ainsi que Fanny Ménard.
C'est je suis une voix.
K.
Je puis être musique.
R.
Je suis un disque.
L.
C'est K-R-L.
Les choses étant ce qu'elles sont.
Le 7e art est à l'honneur durant une heure. Tous les mardis, 18h30, en direct de la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine pour discuter de cinéma avec des critiques et des entrevues au menu. C'est un rendez-vous.
J'ai un formulaire et un chèque à remplir. J'aimerais tellement lire le journal et comprendre les articles.
J'aimerais améliorer mon français pour reprendre mes études et trouver un travail.
Je voudrais écrire des messages à mes amis et à ma famille.
J'arrive pas à lire ce qui est écrit sur ma bouteille de médicaments.
Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, répond à vos besoins en écriture et en lecture. Accueil chaleureux, atelier dynamique, pas de gêne, pas de stress. Appelez-nous au 418-841-1042.
Lecoeuralire.com.
En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg.
Alors, vous êtes de retour à l'aérospatiale et je suis en compagnie de deux nouvelles chroniqueuses. Héloïse Plamondon-Pagé, bonsoir.
Allô, allô.
Fanny Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on avait ici, vous aviez envie toutes deux de parler de cette exposition d'Andréane Dupuis-Bourette qui est présentée à Engram actuellement. Mais vous vouliez en parler, toi, Héloïse, un petit peu plus en chronique, nous faire un survol du travail. Mais Fanny, toi, tu as été inspirée et tu as, dans le fond, choisi de nous faire aussi des lectures pour un peu te réapproprier le médium qu'est la radio pour nous amener dans cet univers un peu poétique aussi associé à cette exposition-là. Enfin, je te laisse nous présenter un peu la première lecture. Tu as deux extraits à nous lire ce soir.
Oui. Alors, en fait, l'idée, c'était vraiment de donner une autre dimension à une exposition à Québec en ce moment. Et il s'avère que ben, souvent, on va aller faire des choix par rapport à nos affinités esthétiques ou eh bien, par connaissance aussi. Puis dans ce cas-là, j'aime le travail d'Andréane et je la connais puisqu'elle était ma collègue de doctorat. Et du coup, quand j'ai eu cette idée de lire des textes en relation avec soit la pratique en général des artistes. Et voilà, donc j'ai tout de suite pensé à Andréane, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui, en ce moment, termine son doctorat à l'UQAM. Quelqu'un qui a beaucoup de références littéraires. Donc, je me doutais qu'elle aurait quelques textes à me suggérer. Et puis, ben, la façon dont je vais vous les livrer est vraiment très organique. C'est-à-dire que je livre des échantillons un petit peu, pas dans le désordre. C'est quand même assez chronologique dans le texte, mais c'est vraiment des échantillons picorés à travers un texte. Donc, le premier texte que Andréane m'a soumis est très intéressant. C'est un texte d'Anne Coquelin, extrait des Machines dans la tête, un livre qui date de 2015. Donc, Anne Coquelin, c'est une philosophe contemporaine qui travaille avec l'éditeur Les Presses universitaires de France et ben, qui a réalisé de nombreux ouvrages sur le paysage, le site, le jardin, la ville, Aristote et l'art contemporain.
Oui.
Donc, voilà pour vous décrire brièvement son travail. Et bien, en fait, c'est le texte qui a directement inspiré le titre de l'exposition d'Andréane qui s'intitule « La machine paysage ». Donc, je fais une lecture et puis on va juste laisser les mots faire leur travail.
Oui, super, on t'écoute.
La nature, qu'entendre par là? Dans ce terme, nous versons généralement tout ce que nous avons à notre portée de verdure, de minéraux et de végétaux, d'eau et d'air, de montagnes et de plaines, sans parler des océans. Une surabondance extravertie, survisible. Non seulement la nature ne se cache pas, mais elle s'exhibe pleinement et dans tous ses états. Une joyeuse confusion s'établit. La peinture, ici, nous envoie des messages. Vaste déjeuner sur l'herbe avec victuailles en tout genre, fruits et plaisirs à volonté, Vénus allongée écoutant les musiciens, concerts champêtres, orages et pluies d'automne. Chaque coin de verdure fut-il misérable et l'on s'écrie « La nature !» Chaque plan éloigné aux formes familières, mer, montagne, colline, et l'on s'écrie « Quelle vue, quel paysage !» Nous nageons dans une culture de la nature présentée sous forme de paysages, photographies, longs plans filmés de paysages avant le mot « end », passage et brassage entre ce que je vois ou crois voir en vrai devant moi et sa représentation iconique ou iconisée. Un paysage. Message moralisateur venu de la nature elle-même via le paysage peint ou photographié. Vous voyez comme je suis et ce qu'on a fait de moi. C'est par un tour de passe-passe d'une figure rhétorique, l'icône, que le paysage signifie nature. Alors que nous savons fort bien que le paysage a été façonné et continue de l'être, façonné, c'est-à-dire transformé, creusé, élimé, abattu, rasé, reconstruit, nous continuons à penser le paysage sur le mode du naturel. Il est difficile, voire impossible, de décrire pièce par pièce ce qui s'agglutine, se colle ou se distingue, prend le pas ou s'efface, vit encore ou se meurt dans cet édifice mental rubricolé en permanence qu'est le paysage pour chacun d'entre nous. Tous ces ingrédients, dont le mélange est instable et transformable à vue, permettent au paysage de fonctionner, c'est-à-dire d'être pertinent pour de multiples discours ou projets et sur de multiples registres. Ainsi est-il, sur son côté transcendance, la pierre de touche de réflexion sur le sublime, de méditation chrétienne, d'apologie du vivant, et, sur le versant de l'action, le principe de la « deep ecology », aussi bien que les aménagements urbains et périurbains et des discours qui les accompagnent. Machine extensionniste, machine mange-tout, le paysage tient son pouvoir de sa multiplicité même. Machine à double face, au moins, elle est aussi bien une machine à regarder et formater la nature. Le paysage cadre et lui donne une forme, qu'une machine à se projeter sur le monde, l'acteur, paysagiste, artiste, commanditaire ou aménageur, intervient selon son intérêt et imprime son point de vue. Ainsi, le paysage satisfait aux deux conditions d'existence d'une machine concrète. Elle fonctionne à l'intérieur comme pensée et fiction en intention, et à l'extérieur comme réalité en extension.
Eh bien, ces mots introduisent très, très bien, je trouve, cette exposition, Héloïse.
Oui, effectivement.
Oui, vraiment. Alors, j'étais curieuse de savoir, justement, qu'est-ce que tu en as passé de cette exposition, toi? Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
Oui, bien, moi, j'ai vraiment apprécié l'exposition d'Andréanne Dupuis-Bourret, qui a été présentée, bien, qui est toujours présentée en gramme en ouverture de sa programmation d'automne. Donc, la machine paysage qui est présentée jusqu'au 8 octobre prochain. Effectivement, ce texte campe vraiment bien l'exposition, en fait, parce que la machine paysage est une installation modulaire qui est réalisée pour interroger notre manière d'organiser la nature afin de rendre la nature plus esthétique et plus productive. Donc, l'installation rassemble une multitude de formes faites de papier imprimé par l'artiste, qui est découpé, déchiré, qui prend toutes sortes de formes, des cônes en origami et tout. Et puis, donc ces formes-là, agencées, forment une sorte de paysage modulaire qui a plusieurs formes, en fait. Et puis, cette installation-là s'inspire... en fait, l'artiste s'est inspiré des jardins hydroponiques autant que des fermes verticales et des jeux vidéo. Puis, ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'on sent le travail de l'artiste qui est vraiment très sériel, répétitif et tout, pour créer tous ces petits objets. Puis, dans l'installation de cette exposition-là, on remarque également des sacs remplis.
Oui, c'est ça.
Donc, tu sais, À quelque part, moi, Andréanne tient un blog super intéressant sur Internet. C'est www.aadb.space. Puis elle met c'est son site web, en fait, mais elle a un blog également. Puis elle met beaucoup, beaucoup de photographies. Puis des fois, des photographies de son travail en atelier. Puis bien que je n'ai jamais visiter réellement son atelier, je sentais vraiment la présence du travail en atelier avec des modules en plastique qui permettent d'agencer tous ces petits objets faits de papier.
Il y a quelque chose un peu du laboratoire, je trouvais, tout à fait, dans cette exposition-là. Des expériences, un petit laboratoire hydroponique, justement, là.
Oui, exact. Puis ça nous amène, nous, en tant que visiteurs, à tellement avoir envie d'aller jouer dans ces formes-là puis dans ces agencements-là, parce que on sent vraiment la main de l'artiste qui a créé ces agglomérations-là de petits objets de papier qui font référence à différents éléments de la nature. Donc, ça peut être, par exemple, des bosquets ou une flaque d'eau, mais en même temps, nous, avec notre imagination, si on s'amuse à modifier l'échelle, bien, ça peut... ce qui a l'air d'un petit bosquet peut avoir l'air d'une montagne, ou les petits bouts de papier enroulés sur eux-mêmes bleus peuvent avoir l'air de plein de petits humains vus de haut. C'est vraiment très intéressant. Puis aussi, elle a intégré certains ventilateurs, donc un peu de mouvement dans son installation. Puis également, avec l'éclairage, il y a des ombres portées qui sont super intéressantes aussi, puis qui font une atmosphère englobante.
Ça avait attiré mon attention aussi, le travail de l'espace, autant, avec la disposition des éléments, mais également des ombres qui sont là. Et il y a le fait aussi que, comme visiteur aussi, on peut voir l'exposition vraiment en tout moment. C'est ça qui est plaisant, parce qu'elle a décloisonné la galerie d'Engram. Il n'y a pas de cimaises qui sont placées le long des vitrines. Donc, quand on se balade sur la cour d'Abraham, on peut avoir un point de vue qui est probablement un petit peu aussi différent par rapport, vu qu'on est un peu plus bas versus que quand on est de haut, donc qui nous amène aussi une vision autre des éléments qui s'y trouvent. Mais j'ai retenu effectivement le fait qu'il y avait des sacs aussi avec des éléments qu'on retrouve là, qui sont disposés, mais qui sont comme là en attente, comme en latence là, d'être placés.
D'être placés finalement, donc ça ouvre un peu à l'idée de prolifération, puis l'idée, parce qu'Andréanne travaille beaucoup avec, les installations modulaires et l'agencement de plusieurs formes de papier pas mal identiques, mais que finalement, ça va former tout un environnement. Mais toujours dans cette idée, un peu aussi le lien avec le lieu, l'in situ, qui fait que ces installations se transforment toujours quand elles sont montrées, en fait.
Oui, parce que justement, moi j'ai vu des images de cette installation-là qui est différente aussi, placée dans un autre lieu, donc elle adapte constamment aussi ce projet, comme tu disais, à l'espace, un projet d'ici tout aussi. Ouais. Oui,
tout à fait. Et puis, j'ai parlé aussi avec les personnes d'Engram, là, puis ils me disaient que c'est une expo qui est très, très, très appréciée du public, parce que aussi Andréanne a une préoccupation que ses œuvres soient accessibles à tous, autant aux personnes qui sont peu initiées qu'aux connaisseurs qui apprécient le travail de minutie et tout. Puis vraiment, chacun y trouve son compte, là, tout le monde, le monde a envie de circuler dans l'installation puis de jouer avec les différents éléments, même si c'est pas tout à fait permis ou on sait pas trop, mais ouais.
Et aussi, ce qui frappe beaucoup, c'est le foisonnement des éléments, mais les couleurs.
Tout à fait.
Des couleurs qui sont très, très vives. Et puis, je pense que aussi au cours de ses études précédentes, ça était beaucoup dans les jeux de noir et de blanc, alors que là, elle semble avoir vraiment se laisser emporter par la couleur dans cette exposition.
Tout à fait. Ben oui. Puis, tu sais, des expositions qui font directement référence aux éléments paysagers. Donc, tu sais, du vert, mais différents tons de vert sérigraphiés les uns sur les autres, le bleu aussi, il y a des agencements de cercles bleus suspendus au plafond qui font référence clairement à des nuages, puis avec les ombres projetées, ça donne autre chose, c'est super intéressant. Du orange aussi, beaucoup du jaune.
C'est comme un piège, hein, très ludique aussi. Il y a c'est très attirant, c'est très interactif, c'est très invitant. On a envie d'intervenir. On se sent très, très invité ouvertement. Puis ça soulève vraiment des points plus dramatiques, entre guillemets. La culture intensive, l'hyperproductivité. Mm-hmm. Il y a toute cette dimension-là aussi qui nous amène tranquillement, pas vite, après nous avoir attirés dans son piège.
Exactement.
Très séduisant, là, c'est vraiment... Ouais.
Oui, puis aussi, c'est ça, c'est cette manie qu'a l'être humain à vouloir tout contrôler, puis contrôler son propre environnement au détriment de celui-ci qui le nourrit, au fond, parce que sans notre terre, puis sans notre environnement, on n'existerait pas. Puis c'est ça, on se croit comme tout puissant, ou je sais pas trop. Donc vraiment, la machine paysage, ouais.
Oui. Et aussi, pour, tu le disais, une exposition qui est ouverte à tous. Moi, je songe aux enfants qui vont se faire, au-delà de, si on peut dire, du côté peut-être plus conceptuel du projet, qui vont se faire un plaisir de se faire ça, leurs propres histoires. Puis même pour nous, je veux dire, pour les adultes aussi, on peut se faire notre propre petite histoire. De moi, je trouvais, comme je parlais de laboratoire tantôt, un peu d'une espèce de savant fou, un peu, là, ben, j'ai pas fou, mais tu sais, un savant qui est dans son monde aussi. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très ouvert et très, voyons, qui nous attire, là, comme on le disait, aussi très, 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 très bien. Et on parlait, dans le texte, là, on parlait de paysages façonnés aussi. Ça, je trouvais que c'était très, très intéressant aussi parce qu'on le sent que tout est organisé, tout est disposé également aussi, même si c'est foisonnant puis ça peut avoir l'air un peu pêle-mêle. Non, on sent quand même que tout ça est contrôlé en quelque sorte, là.
Oui, et en même temps, quelque chose de très, très contrôlé, puis en même temps, ça reste juste du papier sérigraphié.
Oui.
C'est comme aussi simple que ça, et c'est aussi facile à manipuler que ça. C'est ça qui est intéressant dans son rapport à la matière, justement, et à...
Oui, par rapport à l'imprimé,
oui,
là. Oui,
exactement.
Oui, puis ça fait du bien aussi de voir d'autres présentations. On adore le 2D, mais en même temps, c'est le fun quand ça nous amène vers un autre côté de l'imprimé aussi, avec tout ça. Eh bien, on serait déjà rendu à notre deuxième extrait de lecture, Fanny.
Oui.
Donc, tu nous présentes cette fois-ci, c'est Henri Faucillon, un texte qui date quand même de 1934,
oui,
je pense.
Tout à fait. Donc, qui est encore tout à fait d'actualité. Henri Faucillon est un historien d'art français émérite. Le texte est extrait d'un court texte qui fait suite à Vie des formes. Donc, ça s'appelle Éloge de la main. Et dans ce texte, on va vraiment rentrer dans le rapport à la matière d'Andréanne. Donc, autant à ce que la main fait et ce que la matière produit.
Mm-hmm.
Je commence. J'entreprends cet éloge de la main comme on remplit un devoir d'amitié. Au moment où je commence à l'écrire, je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l'entraînent. Elles sont là, ces compagnes inlassables qui, pendant tant d'années, ont fait leur besogne. L'une maintenant en place le papier, l'autre multipliant sur la page blanche ses petits signes pressés, sombres et actifs. Par elles, l'homme prend contact avec la dureté de la pensée. Elle dégage le bloc. Elle lui impose une forme, un contour, et dans l'écriture même, un style. La main est action. Elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans âme abandonné sur la table ou pendant le long du corps. L'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en elle. Et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu'elle va faire. Regardez vivre librement les mains, sans l'appel de la fonction, sans la surcharge d'un mystère. Au repos, les doigts légèrement repliés, comme si elles s'abandonnaient à quelque songe ou bien dans l'élégante vivacité des gestes purs, des gestes inutiles. Il semble alors qu'elles dessinent gratuitement dans l'air la simplicité des possibles et que, jouant avec elles-mêmes, elles se préparent à quelque prochaine intervention efficace. Capables d'imiter par leur ombre sur un mur, à la lumière d'une chandelle, la silhouette et le comportement des bêtes, elles sont bien plus belles quand elles n'imitent rien. Parfois, tandis que l'esprit travaille, laissé à leur liberté, faiblement, elles s'agitent. D'une impulsion, elles émeuvent l'air, ou bien elles allongent leurs tendons et font craquer leurs jointures, ou bien elles se serrent étroitement pour former un bloc compact, un vrai rocher d'os. Et il arrive aussi que lever puis baisser l'un après l'autre avec une agilité de danseur, selon des cadences inventées, les doigts fassent naître des bouquets de figures. La possession du monde exige une sorte de flair tactile. La vue glisse le long de l'univers, la main sait que l'objet est habité par le poids, qu'il est lisse ou rugueux, qu'il n'est pas soudé au fond de ciel ou de terre avec lequel il semble faire corps. L'action de la main définit le creux de l'espace et le plein des choses qu'il occupe. Surface, volume, densité, pesanteur ne sont pas des phénomènes optiques. C'est entre les doigts, c'est au creux des paumes que l'homme les connut d'abord. L'espace, il le mesure non du regard mais de sa main et de son pas. Le toucher emplit la nature de forces mystérieuses. Sans lui, elle restait pareille au délicieux paysage de la chambre noire, léger, plat et chimérique. L'amitié entre l'outil et la main n'a pas de fin. L'une communique à l'autre sa chaleur vivante et le façonne perpétuellement. Neuf, l'outil n'est pas fait. Il faut que s'établisse entre lui et les doigts qui le tiennent cet accord né d'une possession progressive, de gestes légers et combinés, d'habitudes mutuelles et même d'une certaine usure. L'artiste qui coupe son bois, bat son métal, pétrit son argile, taille son bloc de pierre, maintient jusqu'à nous un passé de l'homme, un homme ancien, sans lequel nous ne serions pas. N'est-il pas admirable de voir debout parmi nous, dans l'âge mécanique, ce survivant acharné des âges de la main? Les siècles ont passé sur lui sans altérer sa vie profonde, sans le faire renoncer à ses antiques façons de découvrir le monde et de l'inventer. La nature est toujours pour lui un réceptacle de secrets et de merveilles. Toujours, c'est avec ses mains nues, faibles armes, qu'il cherche à les dérober, pour les faire entrer dans son propre jeu. Ainsi recommence perpétuellement un formidable autrefois. Ainsi se refait, sans se répéter, la découverte du feu, de la hache, de la roue, du tour à potier. Dans l'atelier d'un artiste sont partout écrites les tentatives, les expériences, les divinations de la main, les mémoires séculaires d'une race humaine qui n'a pas oublié le privilège de manier.
Eh bien, vraiment, ça vient très bien compléter, je trouve, ce survol de cette exposition. Et Fanny, tu as aussi invité l'artiste à sélectionner la pièce musicale qu'on va entendre ici.
Tout à fait. Donc, elle a choisi... En fait, Andréane travaille beaucoup avec la musique. Donc, c'est une autre dimension du travail des artistes qu'on connaît moins, quoi, à laquelle on a rarement accès. Fait que je lui dis de nous choisir une toune d'atelier. Et elle a choisi, sans presque d'hésitation, une pièce de Coco Rosie qui s'appelle Happy Eyes, dont les beatbox cheap, les bruits de jouets, les voix lyriques et la poésie parlée vraiment lui rappellent sa façon même de travailler. Donc ça nous parle de construction spatiale, d'usage des matériaux dans ses installations. Donc on vous laisse avec cette pièce.
Oui, merci beaucoup Héloïse et Fanny pour ce survol.
Merci Audrey.
Making me laugh of your life till you wanted a daughter. I ain't no Jesus. If you give me a dress, I could become your princess. My mother, I see my love's a curl.
Et on va terminer cette émission en vous parlant de l'agenda de la semaine, bien sûr. Demain, à 11h, à la Maison des métiers d'art, au local 301, il y a une conférence midi avec la céramiste Joséphine Viau. Penser l'objet utilitaire au-delà de sa fonction. L'artiste va présenter son parcours artistique ainsi que son projet de résidence à la création, de création, à la Maison des métiers d'art. Sinon, ce vendredi à 19h30, c'est une initiative de l'artiste Paul Brunet. Il y a une première soirée d'une série de discussions libres sur l'art et la philosophie dans des ateliers d'artistes. La rencontre aura lieu dans le bâtiment en face du 570 rue des Voltigeurs dans le quartier Saint-Roch. Les artistes accueillent les gens dans leur atelier et ils vont présenter une exposition pop-up pour la durée de la rencontre seulement. Alors, ça vaut la peine. Il va y avoir l'atelier de Julie Bouffard, Olivier Dessert, Christina Fortin, Antoine Lortie et Julie Théberge. Donc, vraiment une belle occasion de discuter, de stimuler le milieu intellectuel et artistique tout en renforçant les liens entre les divers ateliers d'artistes qui coexistent dans la ville. Sinon, ne pas oublier, à compter de vendredi, c'est les Journées de la culture. Il y a de nombreuses activités artistiques par les organismes de la ville de Québec. Allez consulter le site journeesdelaculture.qc.ca pour toutes les informations. Et bien sûr, c'est important de dire, toutes ces activités sont gratuite. Ce dimanche, 1er octobre, c'est le vernissage de l'exposition Secret de Bestiaire de Fanny Ménard qu'on vient tout juste d'entendre, de 14h à 16h à la bibliothèque Gabriel Roy. Sinon, au même moment, il y a à la galerie Michel Guimond un vernissage des œuvres de Carole Bernier et Hélène Dorion. Et dès lundi prochain, on va pouvoir voir l'exposition Retour à la surface d'Iris Lindsay à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Le vernissage sera le 6 octobre. Et dernière semaine pour voir Gabrielle Boucher confondre l'ordinaire au lieu, centre en art actuel, origine et métamorphose à la maison Gérardin et maison Tessier-Dilaplante à Beauport. Et c'est la dernière aussi fin de semaine de la Biennale internationale du lin de Portneuf à Deschambault-Grondines, si vous allez un petit peu à l'extérieur de Québec. On achève cette émission. Je remercie toutes mes collaboratrices cette semaine et collaborateurs, Héloïse Plamondon-Pagé, Fanny Ménard et Simon Roy, et également mon invité Geneviève Chartrand. Merci à Jacques Gignac, le Cook Sasseville de la console, pour cette mise en onde de cette émission, et salutations à Jean-Tiens La France qui nous écoute en direct de Matane. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'aérospatiale. Demeurez à l'écoute. De l'autre côté de la pause, Pierre Blais et son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique en direct de la NINCASI. À la semaine prochaine.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
Vous écoutez CKRL 89.1.
Les centres de femmes, à quoi ça sert? Du 2 au 5 octobre, les centres de femmes posent cette question pour mieux y répondre collectivement et publiquement.
Du 2 au 5 octobre, les centres de femmes de la région de la Capitale-Nationale, en solidarité avec leur regroupement LAIR des centres de femmes du Québec, célèbrent la 15e édition de leur Journée nationale des centres de femmes. Vous êtes invités à différentes activités gratuites tout au long de la semaine. Le 2 octobre, joignez-vous au Centre Ressources pour femmes de Beauport. Information au 88-661-3535. Le 3 octobre, rendez-vous au Centre Femmes d'aujourd'hui. Information au 88-651-4280. Les 4 et 5 octobre, découvrez le Centre Femmes de Portneuf. Information au 88-285-3847, poste 234. Le 5 octobre, rencontrez le Centre des femmes de la Basse-Ville. Information au 88-648-9092. Plus de détails sur notre événement Facebook, Journée nationale des centres de femmes de la Capitale-Nationale.
CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale.
Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative.
Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles.
La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive.
Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
La 27e édition des Rendez-vous Estrades, du 6 au 9 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes porteurs de traditions provenant de tous les coins du Québec et des États-Unis, dont les Paul à Colin, Jeremiah McLean Trio, Wabo Barbecue, Robert Legault et plusieurs autres. 4 journées remplies de musique, de chansons et de danse. Au programme, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, cabaret de chansons à boire, randonnées chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs.
CKRL 89.1.
En septembre, voyez au cinéma Le Clap le dernier Vice-roi des Indes de la réalisatrice Govinder Chadha à partir du 1er septembre. Moon, le gardien de la lune de Benoît Philippon et Alexandre Eboyan dès le 8 septembre. Et au pire, on se mariera de Léa Poule dès le 15 septembre. Les Rois mongols de Luc Picard à partir du 22 septembre. Et les Bombes de plage le 29 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!
En direct de la Ninkasi Saint-Jean, voici Situation critique.
À quoi tu penses?